Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de venir pour ce cours qui est le dernier de la série. Forcément un petit peu particulier dans ce cadre-là. Donc, juste avant de le commencer, je voudrais vous rappeler l'organisation de deux autres conférences le 10 juin en relation avec la manufacture de Sèvres sur une porcelaine peinte qui sera au Collège de France pour qu'on puisse la commenter avec une collègue restauratrice. Et le 24 juin, en collaboration avec le Musée national du Moyen-Âge, le musée de Cluny, tout près d'ici, autour d'un petit trésor mérovingien avec une collègue conservatrice, où là on fera le même jeu d'essayer de regarder ces objets et de les commenter du point de vue de l'histoire des techniques et de l'histoire des sociétés. Je vous annonce aussi, parce que je crois que j'en ai jamais parlé dans le cours, le colloque que j'organise dans le cadre de ma chaire sur la chimie analytique, histoire et innovation, qui aura lieu le 26 juin après-midi et le 27. Donc le 26 sera une après-midi très très interdisciplinaire, et le 27 sera une journée beaucoup plus sur l'innovation technologique dans le domaine de la chimie. Donc voilà pour ces petites annonces des manifestations après donc cette série de cours. Donc aujourd'hui, mon cours est sur la perception des œuvres de la matière à la neuroesthétique. Essayez donc de vous décrire mon point de vue, et enfin, de mettre en avant, disons, plusieurs constats, plusieurs types de recherches qui permettent de dégager l'importance de mélanger à la fois les études sur la matérialité de la création artistique, sur la perception et sur la manière dont notre cerveau arrive à interpréter et décoder les informations qui lui sont transmises. Donc, j'ai commencé par ce tableau d'un peintre anglais, William Holman Hunt, qui s'appelle « L'éveil de la conscience » et qui a été peint en 1853. Alors, je vous le montre pour plusieurs raisons. La première, une raison totalement technique, qui est un petit passage de texte qui est là-haut, que je ne vous ai pas mis en détail, et où William Hunt nous dit qu'il a peint le tableau avec du copal, donc de la résine de copal et de l'huile. Le mélange était mou à l'origine, puis il l'a dilué pour une utilisation en retouche dans du white spirit pour faire ressortir certaines parties. Puis il continue, vert émeraude et jaune gamboge pour les parties transparentes du feuillage. Et il continue, peinture retouchée avec le même médium en 1864, et il termine, s'il vous plaît, copiez cette note avant de la cacher, avant de l'occulter, en mettant éventuellement une autre peinture dessus. Un petit commentaire totalement technique, mais qui est à mettre en relation avec la luminosité, le dynamisme des couleurs qui est si caractéristique chez ces peintres anglais. Donc William Hunt était l'un des fondateurs de la confrérie des pré-raphaélites. Et on a beaucoup discuté, on commente souvent, que ce style très particulier anglais est lié à l'arrivée de nouveaux pigments, de nouvelles couleurs particulièrement pures, particulièrement brillantes par rapport à ce qui était disponible auparavant. Et puis ces artistes ont aussi utilisé, cette confrérie commence en 1848, la compréhension nouvelle des effets optiques et de leur perception par nos yeux pour créer des effets picturaux plus complets, plus nouveaux, et créer un nouveau mouvement pictural. C'est intéressant, ça traite de l'Angleterre, mais le cours aujourd'hui traitera de l'Angleterre et de la France, et le séminaire de l'Angleterre, et j'ai voulu faire un lien entre les deux, et c'est intéressant parce qu'en France, un peu plus tard, les impressionnistes et puis les néo-impressionnistes choisiront d'autres voies esthétiques, mais toujours en considérant les travaux faits dans le domaine de la compréhension des phénomènes qui guident la perception que l'on peut avoir d'une œuvre d'art. Alors, je vous présente ce tableau pour ces aspects-là, puis pour regarder ce détail, donc du coin en bas à droite du tableau, où le peintre a cherché à montrer des fils, que vous voyez ici, de couleurs vertes et bleues, en faisant extrêmement attention à leur couleur dans la partie ensoleillée ou dans l'ombre du tapis. Et donc, vous pouvez remarquer qu'il a cherché à bien utiliser des effets optiques qui se perçoivent par des changements de couleur. Donc, vous pouvez suivre, par exemple, ce fil vert, et ces différentes nuances. Et il est vert quand il n'est pas en plein soleil, il est jaune quand il est en pleine lumière, son ombre sur le piano prend des teintes rougeâtres, et il prend un aspect orangé, que vous voyez ici, quand il est dans l'ombre sur le tapis rouge. C'est pourtant le même fil, mais le contraste avec les couleurs qui sont présentes autour va induire des changements de couleurs choisis par l'artiste en fonction de la perception que l'on peut avoir liée à ces contrastes de couleurs. Et c'est important parce que c'était des constats qui montrent que la teinte qui distingue les sensations colorées, la clarté qui caractérise une intensité lumineuse perçue d'une surface et la saturation qui exprime la pureté d'une couleur doivent être considérées comme un tout. Et c'est ce que fait ici William Holman Hunt en essayant donc de prendre ces nuances et de montrer que tous les aspects se mélangent dans ce jeu d'ombre et de lumière pour un fil d'une même couleur. Et pour faire cela, William Holman Hunt, comme d'autres peintres de son époque, s'est inspiré de la théorie de Goethe, qui elle-même provenait d'autres théories plus anciennes, notamment décrites par Aristote et Léonard de Vinci. Et Goethe avait achevé en 1810 un ouvrage qui s'appelle « La théorie des couleurs », où il avait analysé en détail les effets de la lumière dans la nature. Il les avait reproduits expérimentalement et puis mis au point des petits artifices, notamment l'usage d'un prisme, pour essayer de décrire, de mettre en valeur les éléments subjectifs de la vision, en particulier quand on passe de zones sombres à des zones lumineuses. Et donc on verra tout à l'heure un petit peu plus les notions de loi du contraste simultané des couleurs, donc chez Goethe, mais aussi surtout chez Chevreul, qui développera davantage ces aspects, ainsi que la notion de couleur complémentaire. Mais pour vous montrer encore ce phénomène de perception et comment il peut toucher toute une série de moments de la vie, je voudrais encore en introduction décrire une expérience faite par Goethe, enfin un événement, un moment de la vie de Goethe, qu'il a décrit pour révéler le rôle physiologique de la perception des couleurs. Alors je le cite, il dit « Un soir, me trouvant dans une auberge, je regardais quelque temps une servante de taille harmonieuse, au teint blanc éblouissant, aux cheveux noirs et vêtue d'un corselet écarlate. Elle était entrée dans ma chambre, je la fixais à une certaine distance et dans la pénombre. Dès qu'elle fut sortie, je distinguais sur le mur blanc en face de moi un visage noir entouré d'une auréole claire et les vêtements de la silhouette nettement dessinés était d'un beau vert marin. » Donc cette anecdote souligne l'importance dans le domaine de la perception de la dualité lumière-obscurité, la manière dont notre œil va faire un traitement de ces informations et notre cerveau va les analyser, donc de ce qu'on va appeler un phénomène de contraste consécutif au départ de la servante. Et ici, la couleur du corselet écarlate va se transformer en une ombre, une mémoire de cette couleur vert marin, donc de la couleur complémentaire. Donc ces travaux de Goethe ont participé à toute une réflexion dans les années 1810, 1820, 1830 sur la physiologie de la perception, cette fois-ci beaucoup plus scientifique, beaucoup plus précis que ce qui a été écrit par le poète, qui est souvent relativement faux. Et plus tard, le physiologiste, mais qui était aussi un physicien, un chimiste, Hermann von Helmholtz, donc c'est en 1876, expliquera, et ça vous montre toute l'importance matérialité-perception, il explique que la peinture artistique parfaite n'est atteinte que si nous avons réussi à imiter l'action de la lumière sur l'œil, et pas seulement avec les pigments. Donc en fait, ce cours était pour essayer d'aller un petit peu plus loin donc des descriptions que je vous ai faites jusqu'à présent sur cette matérialité de la création artistique, pour voir également comment ce problème de la perception va être intégré par certains artistes à certains moments, et bien entendu, parce que je reste dans mon domaine, avec des matériaux et avec des produits chimiques. Donc pour le cours, voici un petit peu son plan. Donc on regardera d'abord les couleurs, leurs qualités, les couleurs pures, les mélanges, les contrastes simultanés qui peuvent se voir et se percevoir. Ensuite, j'aborderai le problème de la perception des couleurs par l'œil lui-même, comment ça fonctionne et comment certains troubles de la vision vont induire des modifications, notamment dans la création artistique chez certains peintres. Ensuite, l'interprétation par le cerveau, pour aller un petit peu plus dans le domaine de la neuroesthétique. Et puis, je conclurai donc cet ensemble de cours. Donc pour commencer, donc la qualité des pigments, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de textes qui existent dans ce domaine-là. Et je vais revenir un petit peu sur des notions de couleurs primaires. Quelles sont les couleurs primaires? Comment certains ont cherché à fabriquer les plus belles couleurs primaires et qu'est-ce que cela signifie? Puis on essaiera aussi de voir la loi des couleurs complémentaires. Qu'est-ce que c'est que deux couleurs complémentaires? Comment elles s'associent? Je vous ai parlé du rouge écarlate et du vert tout à l'heure. Et puis les problèmes de teinte, saturation, clarté associés aux couleurs pures. Et puis on regardera dans le phénomène de perception des couleurs, des phénomènes optiques de transparence, de réfraction de la lumière dans la matière, de superposition des couches colorées, et puis également des notions autres comme la représentation du réel dans le tableau et comment elle va être matérialisée quand l'image va se projeter dans un miroir présent à l'intérieur même du tableau. Je vous montrerai un exemple de ce type de problématique. Et puis la loi du contraste simultané des couleurs, qui est quelque chose de particulièrement important à partir du milieu du XIXe siècle pour l'art. Donc en introduction, je vais commencer de nouveau par des études matérielles, rester toujours dans les mêmes domaines, sur l'idée de transparence en regardant ce tableau de Rembrandt où un échantillon a été pris. Et là, vous avez donc cet échantillon en coupe stratigraphique, on en a déjà beaucoup vu, imprégné dans la résine. La toile est en bas. Le peintre avait mis une couche sombre pour faire un fond coloré au fond de son œuvre. Et puis après, vous voyez une couche blanche ici avec des gros grains un peu translucides, puis une couche gris-marron avec un gros grain rouge et puis encore une autre couche. Donc on a eu l'occasion avec Alain Brunel de faire des expériences par la méthode de spectrométrie de masse TOF-SIMS, qu'il a eu l'occasion de vous décrire, et d'imager la nature des différents composés chimiques présents à l'intérieur de cet échantillon. Donc, je ne vais pas redétailler ni la méthode, ni tous les matériaux que l'on peut reconnaître, mais juste un matériau bien particulier qui est dans cette couche blanche et qui m'intéresse parce que, en fait, c'est un matériau ajouté pour modifier la perception que l'on peut avoir de la peinture. Et ce sont des gros grains, comme vous voyez ici, qui sont caractéristiques de l'amidon de blé. En fait, c'est une sorte de farine relativement grossière, comme vous voyez, avec ces gros grains présents dans cette couche, qui est une couche blanche, qui sinon est donc composée essentiellement de blanc de plomb et d'huile. Donc le peintre a mélangé volontairement de la farine de blé dans une couche de peinture à l'huile à base de blanc de plomb. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de ce genre de choses ? Et là aussi, on peut essayer de comprendre et de regarder des phénomènes optiques qui ont lieu cette fois-ci dans la couche de matière picturale et d'essayer de comprendre un petit peu plus dans le détail ce qui peut se passer dans un tel cas. Donc, il a pu remplacer une partie du pigment blanc de plomb par cet amidon. Donc, de l'amidon a déjà été utilisé en peinture, il était utilisé parfois comme colle et puis aussi comme substrat pour des colorants. Là, ce n'est pas un substrat pour les colorants, il a été utilisé pour d'autres raisons et qu'on peut réussir à expliquer en regardant les lois de la réfraction, les lois de Descartes, que vous avez ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui font qu'un rayon lumineux va être dévié lorsque l'on a un changement d'indice optique de la matière. Donc on n'est pas dans la perception par notre œil, mais on est cette fois-ci dans la physique de la lumière qui va traverser les films peints. Et notre amidon a un indice de réfraction qui est de 1,54, peu importe la valeur, le plomb est à 2,5. Je vous ai déjà parlé du blanc de titane la semaine dernière. Et ici, vous avez une huile de lin sèche à un indice très très proche de 1,52. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que la lumière va traverser les grains d'amidon comme elle va traverser le liant. Donc ça signifie que le peintre Rembrandt, en rajoutant son amidon, a finalement trouvé une technique qui lui permettait de diluer davantage son pigment dans plus de liant sans avoir des problèmes de rhéologie, des problèmes de séchage qui sont inhérents à l'utilisation d'une peinture à l'huile trop chargée en huile. Et donc il a réussi de cette manière-là à créer une couche plus transparente et qui va permettre de laisser passer la couleur, de laisser transparaître la couleur de la couche sous-jacente, de la couche d'impression qu'il avait mise, cette fois-ci de couleur brune, dans le cadre de ce tableau. Donc c'est une astuce, mais c'est une astuce qui va faire que notre œil va percevoir les couleurs de manière très différente. C'est une astuce que l'on retrouve aussi chez Léonard de Vinci, et je vous ai décrit la technique des glacis chez Léonard de Vinci, mais on va retrouver également sur ce tableau, la Vierge au Rocher, de la National Gallery de Londres, l'usage par Léonard de Vinci de grains d'amidon dans la couche supérieure, ici, que vous avez, donc qui correspond au vêtement de la Vierge, et puis également un autre vêtement de l'ange qui est présent ici. Et pour l'instant, ça n'a pas été énormément interprété, énormément décrit, mais il est très probable que Léonard ait trouvé cette astuce pour faire un matériau peut-être plus facile à manipuler que ces glacis, vous vous souvenez, qui sont très longs à sécher, qui prennent beaucoup de temps à appliquer quand on va avoir de très jolis effets optiques. Donc là, on est dans une maîtrise technique d'un phénomène qui va induire donc des modifications importantes de la perception des couleurs par nos yeux. Mais l'autre point très important chez les artistes a toujours été de réfléchir à ce que pouvaient être les couleurs primaires. Donc j'y reviendrai du point de vue plus physique sur qu'est-ce que c'est que ces couleurs primaires et comment on peut les décrire. Mais depuis l'époque médiévale, on a toute une série de mentions, de mises en parallèle des trois couleurs rouge, jaune et bleu comme des couleurs symboliques, les couleurs les plus précieuses, associées au vermillon, à l'or et à l'outremer, au lapis-lazuli, autrement dit, et qui prennent une importance très très grande à la fois dans la symbolique des matières colorantes médiévales et puis également dans l'art pour avoir des couleurs particulièrement pures. Alors pour essayer de réfléchir à ces notions de couleurs primaires, on peut envisager toute une série de documentations historiques et de textes, mais aussi essayer d'envisager comment un peintre va représenter les couleurs de l'arc-en-ciel à l'intérieur de son tableau. Donc j'ai pris comme choix, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'analyse malheureusement faite pour l'instant sur ce type de problème, un tableau donc, qui est un triptyque du Jugement dernier, fait par Memling et conservé au Musée national de Gdańsk en Pologne, donc peint vers 1472. Donc, vous voyez là la partie centrale avec le Christ donc, sur cet arc-en-ciel. Ici, vous voyez un détail de l'arc-en-ciel que nous avons pu analyser en passant donc, d'une couleur à l'autre avec beaucoup de détails. Et on se rend compte qu'il y a trois couleurs primaires qui vont être utilisées pour cet arc-en-ciel, le vermillon, le jaune de plomb et d'étain, et l'azurite. Memling n'était peut-être pas suffisamment riche pour prendre l'outremer, particulièrement précieux, pour faire cet arc-en-ciel, mais il a utilisé les mêmes trois couleurs, avec un problème supplémentaire qui apparaît quand il va vouloir chercher à représenter la couleur violette sur le bord de l'arc-en-ciel, où là, on se rend compte qu'il a fait un savant mélange, un grand bazar, je vais dire même, de couleurs, aucune couleur ne lui permettait d'avoir le bon violet, et donc il a mélangé des terres rouges, lacs rouges, vermillons et azurites pour réussir à faire cette nuance. Donc on voit bien ici donc ces trois couleurs principales, et puis après, quand on va avoir d'autres types de nuances, on va mélanger ces couleurs principales, hein, par exemple pour faire du vert et de l'orange, ou alors pour le violet, on a un problème. Et en fait, ce problème du violet ne sera résolu que bien plus tard avec l'arrivée de pigments violets qui réellement donneront une impression beaucoup plus précise de cette couleur. Donc là, on est dans les couleurs primaires. Donc ces couleurs primaires, notamment l'outre-mer, a une symbolique particulièrement importante à ces époques-là. Le manteau de la Vierge doit être peint en outre-mer. Et donc là, vous voyez hein, la Vierge Marie ici. Donc on a pu analyser son manteau. C'est en effet bien peint avec de l'outre-mer. Mais on s'est intéressé aussi à un autre phénomène qui est la projection que l'artiste peut se faire de cette représentation du manteau peint avec du lapis-lazuli de la Vierge lorsque ce n'est pas lui-même, mais que c'est son image dans un miroir. Alors, image dans un miroir, on l'a ici, en fait, sur cette sphère en or présente sous les pieds du Christ et où vous voyez ici, dans le détail, le reflet de la Vierge sur cette surface métallique. Donc, on aurait pu penser que l'artiste avait eu un besoin d'utiliser la même matière pour des raisons de couleur primaire, pour des raisons de symbolique de couleur. Mais en fait, il est passé au-dessus de ces problèmes-là et on a pu vérifier qu'il avait peint le manteau uniquement avec de l'azurite. Et donc, il a considéré que la perception que l'on allait avoir de ce manteau de la Vierge lorsqu'il était réfléchi par cette sphère, cet élément métallique qui joue le rôle de miroir, n'allait pas être aussi important que la perception que l'on allait avoir du manteau de la Vierge lui-même, et donc qui devait être fait avec le plus beau matériau, le plus noble et correspondant à la plus belle couleur bleue. Vous voyez là, on a quelques éléments pour une période ancienne, hein, de la fin du XVe siècle, et qui vont se retrouver dans la suite de mon exposé, où je vais donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essentiellement m'intéresser à des peintures du XIXe siècle, en France et en Angleterre, et aux relations entre des scientifiques et des artistes durant le courant du XIXe siècle. Donc le premier aspect va être donc de regarder les couleurs, leurs qualités, les mélanges et les contrastes entre ces couleurs. Et donc on a eu comme ça toute une série de théories, alors il faudrait un cours entier si je voulais rentrer dans les théories de la couleur telles qu'elles ont évolué à partir de Goethe notamment, mais avant Newton, avant Goethe et puis après Goethe, un grand nombre d'auteurs durant le XIXe siècle. Je voudrais juste vous parler de ces couleurs primaires, secondaires, voire tertiaires avec ce type de graphique de cercle des couleurs comme vous l'avez ici dessiné par Goethe à l'aquarelle. Vous voyez la séquence des différentes couleurs qui sont présentes, ou ici par un autre auteur qui était un chimiste, un théoricien également des couleurs et de l'art, George Field, donc en Angleterre, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui dans un de ses ouvrages va mélanger les couleurs primaires et chercher à décrire les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires avec ce type de graphique où vous voyez les couleurs extérieures qui vont pouvoir se mélanger les unes aux autres pour former d'autres types de couleurs jusqu'à ce que l'on les mélange toutes, on les superpose toutes pour arriver cette fois-ci à du noir qui est présent au centre de ce cercle. Et en faisant ça, George Field commençait à considérer finalement les propriétés optiques spécifiques des couleurs et le fait qu'on pouvait les mélanger ou les superposer pour obtenir toute une série de teintes extrêmement variées à partir juste de quelques matériaux que l'on pouvait considérer comme étant les couleurs primaires les plus pures. Aujourd'hui, on décrit ça avec un vocabulaire relativement classique et relativement simple à comprendre, qui est d'une part la synthèse soustractive des couleurs. La synthèse soustractive des couleurs, ça veut dire que c'est un mode d'interprétation, enfin un mode de génération de la couleur qui correspond à l'absorption d'une partie de la lumière blanche par une surface qui va réfléchir cette lumière. Donc c'est le cas d'une peinture. Sur une peinture, vous avez une surface qui contient des pigments. Chaque pigment va absorber une partie de cette lumière blanche qui ne sera donc plus réfléchie et du coup va générer un aspect que l'on pourra percevoir. Donc cette synthèse soustractive, vous l'avez ici, telle qu'elle est utilisée en imprimerie, dans nos imprimantes jets d'encre par exemple, avec trois couleurs, le magenta, le jaune et le cyan, qui vont pouvoir se mélanger pour faire du rouge, du bleu, du vert, et puis quand on va mélanger les trois, on arrivera à du noir. Donc ça, c'est par ce phénomène d'absorption qui est complètement lié à la matière. Puis vous avez un deuxième concept, qui est la synthèse additive des couleurs, qui fonctionne différemment. Cette fois-ci, c'est la lumière qui va être colorée. Et cette lumière, on va pouvoir la projeter en superposant, par exemple, une lumière rouge avec une lumière bleue. Et donc, on aura comme ça du violet. C'est cette synthèse additive que vous avez ici. Donc, vous avez le rouge, le vert et le bleu et qui vont, en étant mélangés, produire les autres couleurs. Et puis, quand tout le monde va être totalement mélangé, produire la couleur blanche. Vous voyez la différence de jeu. Alors nous, en peinture, c'est uniquement cette synthèse soustractive des couleurs qui va nous intéresser, donc le choix des couleurs primaires que l'on pourra mélanger, ou bien l'invention de couleurs secondaires qui seront directement faites pour avoir les bons tons, les bonnes nuances qui permettent de compléter ce jeu des surfaces colorées pour un peintre. Et puis ici, cette synthèse additive, donc je marque, qui correspond notamment aux écrans ou aux projecteurs, comme celui qui vous éclaire cet écran. Alors cette notion de synthèse soustractive des couleurs est à la base de l'impression, est à la base de la peinture, et je voulais pour cela vous montrer un peu les premières réflexions qui ont réellement existé à partir du XVIIIe siècle pour essayer d'utiliser donc la triade chromatique rouge, jaune, bleu que je vous ai décrite tout à l'heure et utilisée depuis le Moyen-Âge, mais dans un but de reproduire une surface colorée, de la reproduire donc à partir de trois pigments, de façon à avoir des représentations, notamment dans le domaine de l'imprimerie, qui permettent de représenter la réalité. Donc là, vous avez une tête de plâtre peinte qui a été représentée par un imprimeur qui s'appelle Jacob Christophe Leblond, donc qui a vécu et qui a fait ses travaux au début du XVIIIe siècle et qui a cherché à réaliser des estampes imprimées en couleurs et qui a pu démontrer que trois couleurs suffisent pour produire toutes les teintes. Il a déposé un brevet en 1719, donc le début de cette notion, et il a utilisé le bleu de Prusse pour le bleu, une laque jaune pour le jaune, et puis différents pigments rouges qu'il a pu tester au début de sa pratique pour essayer de voir lesquels étaient les plus adaptés pour réussir à donner une représentation qui allait être la plus proche possible de la réalité de la sculpture qu'il voulait montrer. Et donc là, vous voyez ici, donc son travail a consisté à décomposer en trois gravures, afin de faire trois impressions, cette tête en plâtre polychrome, donc ici vous avez juste l'image de l'estampe noir et blanc classique, mais imprimée ensuite en rouge, en jaune et en bleu, ici, donc avec un rouge qui contenait des pigments laqués, et puis ici avec un rouge qui contenait du vermillon, et puis ici un rouge qui contenait une terre rouge. Et donc dans un ouvrage qu'il a écrit en français et en anglais, et c'est un ouvrage en deux langues, en 1727, il explique tout l'intérêt de ces couleurs, il explique comment on peut avoir toutes les nuances, quelle quantité de pigments il faut rajouter pour faire ensuite toutes les nuances que l'on souhaite, et puis la qualité de la représentation de la couleur chair, de la couleur des carnations, est celle qui est la plus propice pour faire ce type de représentation. Donc c'est intéressant parce qu'on est en présence de ces trois couleurs primaires, on est en présence de ce phénomène de synthèse soustractive des couleurs pour avoir cet effet, et puis on est en présence des premières représentations colorées qui donneront plus tard la chromolithographie qui va permettre de révéler les couleurs présentes sur des œuvres par impression dans le domaine de l'imprimerie durant le XIXe siècle et puis qui donneront également des méthodes d'impression sur étoffe et qui se sont généralisées là aussi au XIXe siècle et notamment on parle souvent des indiennes pour ce type de représentation. Bon, juste un défaut, c'est qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas d'outils pour essayer de réfléchir réellement à comment séparer les couleurs en trois niveaux de façon à imprimer facilement ces estampes colorées. Et ce travail est un travail absolument gigantesque et absolument pas rentable. Et c'est une technique qui a finalement relativement peu marché à cause du coût de cette approche, parce qu'il fallait faire beaucoup d'essais et d'erreurs. Les concepts fondamentaux à ce jeu de superposition des trois couleurs pour créer ces images n'étaient pas encore complètement maîtrisés. Donc il a fallu attendre le XIXe siècle pour avoir davantage de maîtrise dans ce domaine, et différents autres concepts apparaissent. Alors je vais revenir de nouveau sur le cas de George Field, donc ce chimiste anglais, donc qui a vécu et qui a travaillé surtout au début du XIXe siècle à Londres et qui, lui, a commencé à chercher à faire des théories sur ces couleurs primaires et à chercher à inventer les plus belles couleurs primaires possibles. Donc il a fait des théories qui peuvent nous paraître aujourd'hui un peu bizarres, associant une couleur à une matière, à un produit chimique. Donc il explique, par exemple, en 1808, au début de ses travaux sur les pigments, que l'alumine paraît être la base naturelle des rouges, le silex, c'est-à-dire la silice, celle des bleus, et la chaux, celle des jaunes. Donc on voit encore qu'il est complètement empreint de toute une mythologie, je veux dire plutôt alchimique, essayant de montrer que certains matériaux de la Terre vont être complètement associés à certaines couleurs. En fait, il passera au-dessus de ça relativement rapidement, il fabriquera d'autres produits avec d'autres types de constituants, mais il choisira les plus belles matières possibles pour avoir ces couleurs. Et donc il développera une gamme de couleurs primaires, secondaires, tertiaires, et pour les couleurs primaires, il prendra le plus beau lapis lazuli naturel. Même lorsque Guimet fabriquera son lapis lazuli synthétique, il le refusera pour garder le plus beau pigment bleu possible, croyant que le naturel était forcément plus beau. Il prendra un pigment laqué de Garance pour réussir à avoir le plus beau rouge. Et pour cela, il cultivera des plantes, il développera des méthodes pour en extraire les colorants, les purifier et avoir les plus belles teintes. Il développera également différents types de jaunes, notamment un jaune citron, vous voyez ici, qui est un chromate de barium, donc on n'est plus du tout dans le présent, en présence de chaux, il n'y a plus de calcium dedans, mais qui va lui donner la plus belle couleur jaune. Et donc il explique, quand il arrive à ses premiers succès sur ces couleurs, que les artistes devraient employer mes couleurs pures et aussi peu mélangées que possible. Donc il commence à avoir cette idée-là, qu'il peut faire une gamme de ces couleurs qui va satisfaire les artistes pour qu'ils puissent travailler de manière simple avec ces couleurs pures. Donc on est très très loin encore des travaux des impressionnistes qui mélangeront leurs couleurs sur leur palette et sur leur toile. Donc là je vous ai mis un petit passage de ce livre de George Field qui s'appelle Chromatographie et où vous voyez les couleurs primaires et puis les couleurs secondaires et puis les couleurs tertiaires qui sont présentes et cette gamme donc, qu'il va chercher à produire de manière industrielle et qu'il va montrer aux artistes de son époque, échanger avec eux et leur proposer ces matériaux. Alors vous voyez ici, par exemple à droite, des éléments techniques, des matériaux qui étaient utilisés par Turner et qui ont été découverts dans son atelier lors de sa mort en 1851. Et vous avez ici différents pigments. Et puis vous voyez cette boîte de couleurs qui contient aussi différents pigments qui étaient vendus, en fait, ou qui étaient originaires des productions de George Field. Et George Field a été vraiment un des grands pourvoyeur en matériaux particulièrement beaux, particulièrement brillants de cette époque-là. Et donc on les retrouve chez Turner et puis on retrouve également chez George Field différents textes où il va chercher à démontrer aux peintres qu'ils peuvent utiliser ces pigments, qu'ils peuvent ensuite les combiner, les juxtaposer de manière précise. Et pour ça, il inventera un instrument. Donc vous avez un schéma ici qu'il a appelé un chromascope ou un métrochrome, donc un appareil pour mesurer la couleur et qui va permettre grâce à des filtres, grâce à des pigments qu'il met à l'intérieur de son appareil, de décomposer n'importe quelle couleur en composante de ces trois couleurs primaires. Et d'expliquer, vous voyez, vous pouvez obtenir toutes les nuances avec mes couleurs. Et puis en même temps, il s'intéressera à d'autres aspects. Je n'aurai malheureusement pas du tout le temps de revenir plus là-dessus dans la suite de mon exposé, mais c'est les relations entre la couleur et la musique et la manière de trouver certaines relations entre les couleurs primaires, secondaires et tertiaires, et puis les gammes musicales, qui est un autre aspect important de ces travaux également, qui vont se développer dans le courant du XIXe siècle sur la perception et notamment sur les enjeux des approches synesthésiques associant nos différents sens. George Field, en fait, avait cherché à fabriquer les plus belles couleurs pures possibles, mais en plus, il avait cherché à fabriquer les couleurs les plus stables. Alors, je vous ai tellement parlé de problèmes de dégradation et d'altération des couleurs, je me dis qu'il faut quand même montrer un contre-exemple dans ce cours. Certains chimistes ont quand même recherché à avoir des pigments particulièrement stables. Et ça a été le cas de George Field, qui a passé environ 25 ans à tester toutes ces couleurs les unes après les autres, de façon à vérifier leur stabilité en fonction du liant, en fonction d'un éclairage plus ou moins violent. Et on considère toujours, je vous ai montré une peinture de William Holman Hunt au début, de la confrérie des pré-raphaélites, mais on considère toujours que ces peintres anglais pré-raphaélites ont réussi à développer un art particulier à partir justement de ces pigments extraordinaires que leur proposait George Field et que leur vendait un marchand de couleurs qui s'appelait Robson. Et là, vous voyez un autre exemple, peut-être beaucoup plus séduisant que le premier tableau que je vous ai montré de Hunt tout à l'heure, qui représente donc la mort d'Ophélie, donc Ophélie, le personnage de Shakespeare dans Hamlet. Et vous pouvez voir ses couleurs et toutes les études qui ont été menées, notamment ces 20 dernières années à la Tate Gallery à Londres par différents chimistes, ont montré que ces couleurs ont résisté au temps de manière complètement extraordinaire. Et que cette idée de George Field d'avoir les plus belles couleurs pures, brillantes et stables, était une belle idée et qu'on arrive à retrouver dans ces tableaux l'harmonie des couleurs telle qu'elle avait été voulue par les artistes, donc contrairement à ce que je vous ai raconté par exemple sur Van Gogh. Donc c'est un enjeu certainement très important de tout cela et dans cette compréhension de la perception, donc issue de Goethe, comme je vous en ai parlé, ces aplats, ces juxtapositions, ces contrastes colorés, par exemple dans les fleurs, vont prendre une grande importance chez ces peintres pré-raphaélites. Mais ensuite, celui qui va réellement mettre en théorie un peu plus scientifique et puis juste, ou bien plus juste, les problèmes de juxtaposition de couleurs et les façons dont une couleur arrive à transformer une autre couleur qui est proche d'elle, c'est Michel-Eugène Chevreul, donc un autre chimiste, directeur de la manufacture des Gobelins, et qui va écrire en 1839 un livre fameux qui s'appelle « De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés », et où il va poser toute une série de concepts, décrire toute une série de concepts, et notamment qu'une couleur donne à une couleur avoisinante une nuance complémentaire dans le ton. Et il s'ensuit que la complémentarité opposée et que les couleurs complémentaires opposées s'éclairent mutuellement et que les couleurs non complémentaires peuvent paraître à nos yeux sales, ce qui n'est pas le cas quand elles sont pures, mais juxtaposées de la mauvaise manière, elles peuvent paraître sales. Et donc il donne par exemple l'exemple d'un jaune placé près d'un vert qui prend une nuance violette. Donc c'est ce qu'il va appeler le contraste simultané et qui fait que, en fait, qu'une couleur, pour une couleur donnée, notre œil exige en même temps, c'est pour ça qu'il est simultanément, sa complémentaire, et que si cette complémentaire n'est pas présente à côté, l'œil va la créer lui-même. Et donc ceci est d'autant plus fort que la couleur est lumineuse et que l'on fixe longtemps la couleur principale. Donc ça peut avoir lieu avec un gris et une couleur, ça peut avoir lieu avec deux couleurs complémentaires, ça peut avoir lieu dans différents cas, donc voici différents types d'exemples où vous avez ici cette image, cette photographie en noir et blanc de cette jeune femme avec un filtre rouge sur la moitié de l'image, donc je vous laisse la regarder. Si vous cherchez à regarder la couleur des deux yeux, vous remarquez que d'un côté, l'œil, c'est une photo en noir et blanc, vous ne savez pas quelle est la couleur, puis de l'autre, vous le voyez bleu. En fait, il n'est absolument pas bleu, et si je vous mets un cache noir autour de l'œil, vous voyez que c'était vraiment la photo noir et blanc, et qu'on avait laissé l'œil en gris, mais que votre perception, à cause du rouge qui avoisine cet œil, vous induit en erreur et vous donne l'impression que c'est bleu. Donc on est en plein dans ces notions de contraste simultané des couleurs qui s'appliquent également dans les problèmes d'intensité lumineuse. Et là, vous voyez ces bandes, crème et puis marron sombre, disons, sur ces deux sapins verts. Et en fait, vous voyez qu'ici, le sapin est derrière les bandes blanches, ici, il est derrière les bandes noires. Vous avez l'impression que la luminosité des deux verts n'est pas du tout la même, alors qu'en fait, c'est exactement la même. Et donc là, vous voyez également ce phénomène-là qui se retrouve ici dans un autre cas où, de la même manière, vous voyez les carrés roses ici qui sont entourés de carrés blancs. Vous les trouvez très lumineux par rapport aux carrés roses entourés de carrés verts, alors que pourtant, c'est exactement les mêmes carrés roses. Donc vous vous rendez compte comme ça, très facilement, sur ces quelques exemples, que l'on va avoir toute une série de possibilités esthétiques si on sait manipuler correctement ce genre de phénomène et qu'on va pouvoir induire des formes d'art tout à fait particulières et que les couleurs vont pouvoir avoir une sorte de dynamique qui dépendra de leur environnement. Et donc certains ont parlé du fait que la stabilité des couleurs pouvait disparaître, qu'elles pouvaient vibrer, et j'y reviendrai tout à l'heure avec les pointillistes. Mais juste avant d'arriver aux pointillistes, un exemple du début de ces préoccupations, toujours chez les pré-raphaélites, avec Ford Madox Brown, qui est un peintre qui n'a pas toujours été très, très apprécié. Donc une peinture en 1851, un peu particulière, là vous voyez le détail du visage. Donc sur ce tableau, il y a un critique a dit que les gens ont trouvé son travail grotesque, offensant, inquiétant, tout à fait inapproprié. Bon, alors c'est tout à fait inapproprié, offensant, inquiétant, parce que c'est une version dérivée, finalement, d'une Vierge à l'enfant, dans un contexte complètement différent. Donc d'une peinture faite dans la nature, où le peintre va s'intéresser aux ombres de manière très particulière, aux reflets de couleurs, justement, dans ces ombres. Les ombres ne seront plus noires, mais notamment, il va s'intéresser, et c'est le détail de ce visage, à cette bouche. Il va utiliser un glacis vert pour ombrer les dents, pensant qu'autour du rouge, il est indispensable d'avoir un glacis vert pour montrer la réelle ombre telle qu'on doit la percevoir. Bon, quand vous voyez cela, quand vous voyez le tableau aussi en réalité, c'est un peu choquant, il est un peu trop forcé sur le vert, parce que notre œil veut aussi percevoir de manière correcte et pas forcément de manière trop forte les effets de ce contraste simultané des couleurs. Ces mêmes notions vont apparaître donc chez d'autres artistes, et notamment Georges Seurat, dans le cadre de la création d'un mouvement néo-impressionniste ou d'un mouvement pointilliste, comme vous voulez, à partir tout court de ce tableau qui s'appelle « Un dimanche à la Grande Jatte » et qu'il a proposé durant la dernière exposition collective des impressionnistes en 1886. Et le peintre disait que c'est le premier exemple de peinture optique. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, en fait, Seurat avait une formation initiale portée vers les sciences et il s'était intéressé dans le détail aux publications concernant la vision issue de Chevreul, dont je viens de vous parler, mais aussi d'autres auteurs comme l'Américain Hodgkin Rood et le Français Charles Blanc, qui avaient précisé notamment les notions de couleurs complémentaires et avaient détaillé toutes les combinaisons que l'on pouvait envisager. Et on dispose d'ailleurs de ces listes de lecture puisque Seurat avait envoyé une lettre un critique d'art pour lui expliquer justement d'où venaient ses idées en 1890. Et donc là, vous voyez, donc sur ce dimanche à la Grande Jatte, sur cette peinture qui est à l'Art Institute de Chicago, vous voyez la texture de points ou de touches, là dans un détail, par exemple ici, du paysage, du lac derrière et des arbres, qui va créer donc une technique très particulière issue de la théorie optique. Donc avant, les peintres, s'ils voulaient créer une couleur particulière, allaient mélanger les pigments sur leur palette. Alors qu'ici, ces pointillistes, ces divisionnistes, vont juxtaposer les couleurs pures les unes à côté des autres. Et ainsi, une petite tache bleue posée à côté d'une tache jaune va donner une impression de vert, non pas sur la toile, mais sur la rétine de l'observateur, qui doit se placer à ce moment-là à la bonne distance pour réussir à voir l'œuvre correctement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et cette application de petits points va créer donc, ce qu'on a appelé une vibration visuelle fondée sur le caractère incomplet du mélange optique. Puisque vous voyez bien ici qu'on a à chaque fois des caractères incomplets de ces mélanges optiques. Alors, Seurat a poussé ces concepts dans toute son œuvre jusqu'au bord du tableau. Vous voyez peut-être ici, le bord du tableau est coloré avec une bande. Donc vous avez un détail, ici on est juste au bord du tableau, dans cette partie-là. Et vous voyez qu'il a fait un effort et de chercher la complémentaire de la couleur par rapport à ce qui était représenté à l'intérieur du tableau. Donc le bleu par rapport à l'orange, un rouge-pourpre par rapport au vert. Et donc là, il a de nouveau regardé les ouvrages, et notamment les descriptions de Chevreul pour la relation orange-bleu, et puis également de Helmholtz sur la relation rouge-pourpre-vert foncé. Et donc c'est vraiment en se fondant sur ses écrits qu'il a développé son mouvement. Et certains, comme Camille Pissarro, ont écrit que Seurat est le premier peintre à avoir eu l'idée d'étudier en profondeur et d'appliquer la théorie scientifique. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier peintre, mais dans ce domaine de la perception, certainement. Mais par contre, cette méthode scientifique était d'une telle complexité de choix des juxtapositions de petites touches qu'aucun autre artiste ne réussissait à en aborder les problématiques sans perdre sa liberté d'artiste. En fait, très vite, en fait, on a peu de peintres qui vont utiliser ce type de technique, qui va très vite se perdre. Et par exemple, Pissarro, qui a cherché à adopter cette technique, très vite lui a tourné le dos. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on a, par ces techniques néo-impressionnistes, l'association des deux théories dont je viens de vous parler, la loi du contraste simultané et puis la loi des couleurs complémentaires. Et donc ces deux lois vont permettre de jouer sur les luminosités, de jouer sur les différentes couleurs et de créer cette perception dans l'œil, et on va y revenir dans un instant. Juste pour finir la description de la perception de ses œuvres, Paul Signac, qui était aussi un ami de Seurat et qui est le cofondateur de ce mouvement néo-impressionniste, lui, il expliquait que le néo-impressionnisme ne pointille pas, donc le terme pointilliste, mais il divise. Or, diviser, c'est s'assurer tous les bénéfices de la luminosité, de la coloration et de l'harmonie. Donc il arrivait à démontrer, il arrivait à concevoir que ces jeux optiques créés par cette division de la couleur et division des matières pures utilisées allaient permettre de créer une luminosité tout à fait spécifique, de créer des colorations et surtout une harmonie, puisque pour notre œil, la juxtaposition des différentes couleurs allait être effectuée dans une harmonie parfaite. Donc ce sont des théories scientifiques, des théories esthétiques qui seront à la base de tous ces mouvements. On peut en trouver d'autres, et le XXe siècle nous a donné beaucoup d'autres formes de ce type de recherche visant à impressionner notre rétine directement via toute une série d'artifices techniques dans la création artistique, et ça a été par exemple jusqu'à l'art cinétique et à différentes autres approches. Donc, je vais continuer un petit peu en regardant quand même la suite. Là, c'est plus le peintre qui va peindre, mais de regarder comment finalement l'œil du peintre ou notre œil à nous va percevoir les couleurs. Donc je vais aller relativement rapidement dans ce domaine-là, ce n'est pas le but de mon cours, mais vous rappeler ou vous expliquer sur ce schéma de l'œil que l'œil contient toute une série de capteurs, de détecteurs de la couleur et de la luminosité qui sont présents sur la rétine, donc qui est présente au fond de l'œil. Et ces capteurs sont soit des cônes, donc comme vous voyez ici, ils ont des petites formes de cônes, ça c'est une photo en microscopie électronique à balayage qui a été recolorisée, et ces petits cônes vont être sensibles aux fortes luminances, c'est-à-dire à la lumière forte, et vont avoir un bon pouvoir séparateur de la couleur. Et donc c'est présent dans une zone centrale de la rétine. Puis on va avoir aussi des bâtonnets, qui, eux, sont très sensibles aux très basses lumières, environ 100 fois plus sensibles que les cônes, et donc vont nous permettre de voir, notamment la nuit, et de perdre des informations sur la couleur, mais de réussir à voir des choses qui sont très faiblement éclairées. Et ces bâtonnets sont répartis sur l'ensemble de la rétine. Vous voyez, environ 5 millions de cônes et environ 125 millions de bâtonnets. Donc, ce qui est intéressant dans ces cônes, c'est qu'en fait, ils vont être, même s'ils se ressemblent, associés à des molécules qui vont permettre de coder la lumière, d'absorber une partie du spectre lumineux pour transmettre à notre cerveau l'information qui nous dit que c'est du vert ou du rouge ou du bleu ou de l'orange, et ainsi de suite. Et si on regarde un petit peu ces cônes, on peut essayer de regarder la réponse qu'ils ont en fonction de la couleur, en fonction de la lumière qui les éclaire. Donc là, vous avez la longueur d'onde de la lumière, donc on est dans le domaine du visible, entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Donc vous avez le rouge de ce côté, hein, le violet et bleu de ce côté. Et vous avez les trois types de cônes, donc S, M et L, ici, donc correspondant à la longueur d'onde, small, medium et large, en anglais. Et vous voyez la manière dont les molécules qui constituent ces cônes vont absorber une partie du spectre lumineux. Donc vous voyez ici, par exemple, les M vont être essentiellement dans le vert, les L vont être essentiellement dans le rouge, et les S vont être essentiellement dans le bleu. Mais pas uniquement dans le rouge, pas uniquement dans le bleu. Donc par exemple, si vous prenez une lumière jaune, qui est donc par ici, elle va exciter à la fois les cônes dits M et les cônes dits L. Donc transmettre une information de l'excitation de ces deux types de cônes qui va être retransmise à notre cerveau, et notre cerveau va savoir que c'est du jaune, parce que la combinaison des signaux envoyés par ces deux types de cônes va lui dire, par l'apprentissage que l'on a, parce que là c'est du vocabulaire, que c'est cette couleur jaune. Dans d'autres cas, si on a une lumière mauve, par exemple, à ce moment-là, la lumière mauve peut être composée à la fois de bleu et de rouge. Donc, c'est-à-dire que pour faire du mauve composé de bleu et de rouge, on va exciter les cônes S, on va exciter les cônes L, vous voyez, qui sont quasiment totalement disjoints. Mais ça veut dire que ce n'est absolument pas un seul cône qui va permettre de traduire la nature de cette couleur et qu'il n'existe pas de lumière monochromatique perçue par notre œil. Notre œil va percevoir cet ensemble de signaux et va les interpréter pour réussir à créer dans notre cerveau les notions de couleurs et le vocabulaire associé à ces couleurs. Ce sont des informations intéressantes parce que ça montre un petit peu les difficultés que l'on a pour percevoir et pour nommer parfois certaines couleurs. Et moi, je suis toujours, moi personnellement, avec une grosse difficulté entre la couleur violette et la couleur mauve et d'avoir des explications quand est-ce qu'on parle de violet, quand est-ce qu'on parle de mauve. Et là aussi, on peut jouer sur les signaux qui sont présents par ces cônes et par l'apprentissage, bien entendu, que l'on a dès notre enfance pour essayer de dénommer ces couleurs. Ensuite, nous ne sommes pas tous égaux dans cette salle, nous ne voyons pas tous les couleurs de la même manière. Et là, vous avez un article qui a repris, enfin qui a colorisé ici une partie de la rétine pour essayer de regarder la quantité de cônes, donc à la fois S, M et L, ou bleu, vert et rouge, comme vous voyez ici, pour différents types de personnes. Et vous voyez que les rapports entre les différents cônes, donc les différents points ici, sont très différents, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes sensibilités dans le domaine spectral en fonction de notre génétique, en fonction de notre rétine. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais pourtant, on parle tous de la même manière, des mêmes couleurs, parce que notre cerveau a appris à transcrire les signaux qu'il recevait avec un certain vocabulaire, et donc à compenser ces fluctuations qui peuvent exister dans la distribution, dans la densité de chacun des cônes à l'intérieur de notre rétine. Donc ça, c'est un autre aspect très important de ces perceptions et qui peut avoir des influences également sur la création artistique, dans certains cas. Donc ensuite, ces cônes qui sont présents ici et ces bâtonnets vont être traités par toute une série de cellules nerveuses et puis ensuite vont être transmis par le nerf optique jusqu'à notre cerveau. Et bien entendu, après, il faut aller dans le cerveau pour continuer à suivre l'interprétation de ces données et donc à pouvoir réussir à les décrire. Donc je ne rentre pas sur toutes les cellules ici qui vont permettre de faire ces combinaisons de couleurs et faire un premier traitement de l'information qui est extrêmement important. Je voudrais m'intéresser plutôt à ce qui se passe chez certains peintres qui ont été atteints de problèmes de vision. Et certains, c'est très très connu, comme Claude Monet. Claude Monet qui était atteint de la cataracte, donc qui correspond à une opacification du cristallin, et qui va induire à la fois une baisse de la vision, parfois même une cécité, et puis également une déficience de la vision des couleurs froides, notamment bleu et violet. Donc là, vous avez le bassin des nymphéas peint en 1899, donc peinture du musée d'Orsay, où Monet a fait une peinture extrêmement précise, avec une gamme chromatique totalement adaptée à la perception d'un œil normal. Mais on sait que peu d'années après, il débute donc une cataracte, et ses formes dans ses peintures vont devenir moins nettes, ses couleurs vont changer. Et là, vous voyez en 1917, le même pont japonais, peint par Claude Monet, d'après sa vision à ce moment-là, et les changements profonds qui peuvent exister. Donc on a toute une série d'informations qui nous permettent de suivre le développement de la maladie. En 1911, il écrit à un ami « Il y a trois jours, j'ai constaté avec terreur que je ne voyais plus rien de l'œil droit. » Et puis en 1915, il parle de la perception de ces couleurs qui est faussée. « Je ne perçois plus les couleurs avec la même intensité. Les rouges m'apparaissent boueux. » Et un peu plus tard, il écrira « Je vois bleu, je ne vois plus le rouge, je ne vois plus le jaune. Ça m'embête terriblement parce que je sais que ces couleurs existent, parce que je sais que sur ma palette, il y a du rouge, du jaune, il y a un vert spécial, il y a un certain violet. Je ne les vois plus comme je les voyais dans le temps, et pourtant, je me rappelle très bien les couleurs que cela donnait. » Et donc là, chez Monet, il se rappelait des couleurs, mais comme il voulait peindre d'après ce qu'il voyait, il était incapable de reproduire. D'autres peintres, et William Holman Hunt, notamment le premier auteur du premier tableau que je vous ai montré, à la fin de leur vie, ont eu aussi des problèmes de vision importantes et ont cherché à se souvenir justement de ces positions de leurs taches de couleurs sur leur palette pour continuer à peindre, en sachant, même s'ils ne voyaient plus les couleurs, qu'ils avaient là du rouge, là du vert, là du bleu, là du violet, et ainsi de suite. Donc ce type d'observation que l'on peut faire sur les tableaux est étudié par différents médecins, notamment un dénommé Michael Marmor à l'université de Stanford, professeur d'ophtalmologie, et qui a regardé un petit peu, qui a cherché à traiter, d'après les connaissances modernes que l'on a de la cataracte, comment Claude Monet pouvait voir les tableaux qu'il a peints. Donc là, vous voyez deux tableaux, 1918, donc avec une prédominance des couleurs bleues, 1924, orange. Et puis, en fait, avec les connaissances que l'on a de l'évolution de la vision que l'on peut avoir avec une cataracte, un modèle, donc pour une acuité visuelle déterminée suite à ce phénomène, donc où tout devient flou, et vous voyez en fait que les deux visions telles qu'elles sont filtrées par un œil atteint à ce niveau de cataracte vont être à peu près les mêmes. Et que simplement, Claude Monet n'arrivait pas à représenter correctement les choses parce qu'il ne voyait plus les couleurs froides, il ne voyait plus le bleu. Et il l'utilisait, il en utilisait trop, ne sachant pas qu'il en mettait trop. Vous voyez ce type de phénomène. La même chose a été utilisée, le même type de réflexion a été effectué pour d'autres peintures, enfin là ce sont des pastels plutôt de Degas, et Degas était atteint de dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA dont on parle souvent, et donc qui est une maladie de la rétine qui est provoquée par une dégénérescence progressive de la macula, c'est-à-dire la partie centrale de la rétine. Et ça provoque une baisse de la vision et une déformation des images. Et là, vous avez trois scènes, donc de jeunes femmes sortant du bain, se coiffant ou se séchant les cheveux, comme on veut. L'une en 1886, l'autre en 1900 et l'autre en 1905. Donc 86, 1900, 1905. Vous voyez, le style de l'artiste devient de plus en plus, je vais dire, flou, d'ores et déjà. Les touches ici sont beaucoup plus longues, sont beaucoup plus imprécises que la première représentation effectuée une vingtaine d'années auparavant. Donc c'est suite à l'évolution de cette dégénérescence maculaire liée à l'âge chez Degas. Et là aussi, le même professeur d'ophtalmologie a recherché un petit peu un modèle d'évolution de la vision, donc avec des paramètres mis dans son article qui sont ici, où en fait il cherche à calculer ce que Edgar Degas voyait réellement de son œuvre. Et donc vous voyez ici la manière dont finalement l'aspect flou, la déformation de l'image, va induire un changement pour lui de perception qui est extrêmement notable. Et ce changement de perception se voit directement dans sa manière de réaliser ses touches de pastel pour réussir à représenter ses corps. Vous voyez très bien cette relation qui existe et qu'il faut prendre en compte également. Et là, ce n'est pas qu'un problème de matériaux et pas qu'un problème de technique, c'est un problème de vision, si on veut avoir une vision correcte du phénomène de création artistique. Bien entendu, il faut le prendre en compte si on regarde aussi des œuvres d'art en tant que spectateur. L'aspect suivant, c'est l'interprétation par le cerveau de tout cela. Une fois que notre œil fait son travail plus ou moins bien en fonction des maladies que l'on peut avoir, notre cerveau va chercher à interpréter. Et donc, il y a eu toute une série de travaux qui ont été développés, alors en France, par Jean-Pierre Changeux et certains de ses collègues, pour essayer de décrire toute une série d'hypothèses permettant de voir le rôle de notre cerveau dans la contemplation esthétique, donc les bases neurales du plaisir esthétique. Et donc Jean-Pierre Changeux écrivait, donc c'est en 1987, que le plaisir esthétique mobilise de manière concertée des ensembles de neurones qui unissent les représentations mentales les plus synthétiques élaborées par les structures du cerveau engagées dans les fonctions cognitives, comme le cortex préfrontal, avec une activité précise du système des émotions, comme le système limbique. Donc le système limbique, c'est un ensemble de zones du cerveau qui jouent un rôle dans la perception, l'olfaction, mais aussi dans la mémoire, la régulation des émotions. Et puis les fonctions cognitives, c'est ce qui va regrouper, par exemple, le langage, les savoir-faire, la reconnaissance visuelle, toute une série de fonctions exécutives, c'est-à-dire tout ce qui va contrôler, finalement, les actes volontaires. Donc ce sont des choses qu'on arrive à comprendre de mieux en mieux depuis une vingtaine d'années, grâce au développement de techniques d'imagerie du cerveau, et notamment de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, dont vous avez là un croquis relativement classique, en fait, qui est une technique qui va permettre de mesurer le niveau d'oxygénation de la circulation sanguine dans notre cerveau. Et là où les neurones sont particulièrement actifs, ils ont besoin de plus d'oxygène, et donc la circulation sanguine est plus chargée, est plus forte et est plus chargée en oxygène. Et donc ça révèle des taches que vous voyez ici, et qui correspondent en fait aux zones qui sont actives dans notre cerveau, en fonction donc là, d'une émotion, la joie ou la tristesse, comme vous voyez ici, et ça n'active pas les mêmes parties du cerveau. Donc là on est dans une approche, anatomique, hein, de décrire des parties. Après, on peut aller plus loin dans les connexions entre toutes ces parties. Je vais en rester juste là, avec ce système également de représentation, hein, d'une coupe de cerveau. Vous voyez les différentes parties, donc le système limbique, qu'on appelle aussi le cerveau des émotions, là où il est présent. Le système hédonique, qui est aussi le système de récompense lié au plaisir, dont vous voyez les différentes parties. Et puis d'autres parties qui sont liées à la douleur, au mouvement, aux sensations, etc., à l'intérieur du cerveau. Donc on a énormément de travaux, hein, vous en avez vu, et puis vous allez peut-être suivre les cours de Stanislas Dehaene au Collège de France, qui vous parle de ça énormément et de toutes les dernières découvertes dans ce domaine. Il y a des travaux également, donc, suite à notamment Jean-Pierre Changeux en France, Semir Zeki en Angleterre, de nombreux travaux qui cherchent à utiliser ces concepts pour comprendre le plaisir esthétique que l'on peut avoir lors de la contemplation d'une œuvre, ou pour comprendre comment on se comporte également lorsqu'on cherche à contempler une œuvre. Je vais vous donner juste deux exemples pour vous montrer deux travaux. Donc, l'un donc, de Semir Zeki et d'un collègue paru en 2013, et qui était une expérience qui visait à mesurer l'activité cérébrale d'une série de sujets lorsqu'on leur demandait de juger la beauté et la luminosité de deux peintures qui étaient présentées simultanément. Donc la beauté et la luminosité, ça n'a aucun rapport. L'un, c'est un jugement de perception, la luminosité. Est-ce que c'est lumineux ou c'est pas lumineux ? Et puis l'autre, la beauté, c'est un jugement qui est affectif et esthétique. Donc ça ne doit pas forcément mettre en œuvre les mêmes parties du cerveau. Et donc voilà comment se passe ce type d'expérience. On va d'abord donner une instruction, juge la beauté, juge la luminosité. Donc ça, on le dit, il n'y a pas d'image, on laisse dans le noir le patient. Et puis après, on va lui montrer deux images de deux tableaux, donc ils le font pendant 3 secondes, et ils vont regarder pendant 2 à 4 secondes la manière dont les zones du cerveau vont s'activer. Donc ils ont reçu un ordre, ils regardent, et puis notre cerveau traite l'information pour répondre à la question, et ensuite on va passer à l'image suivante et au test suivant. Donc vous voyez là par exemple l'activation du cerveau observée lors de paysages ou de portraits, là aussi ils observent que ce n'est pas forcément la même chose, on n'a pas forcément les mêmes comportements et les mêmes activations des différentes parties du cerveau dans ces deux cas. Et puis ils vont plus loin dans leur article pour essayer de décrire, et je reste très superficiel dans leur description, toute une série de zones qui sont présentes à l'intérieur du cerveau et qui vont s'activer quand on demande un jugement esthétique uniquement. Et puis après, il y a d'autres graphiques du même genre pour les autres types de jugements qui sont demandés. Et donc ils arrivent à différents constats. Donc on est en 2013, hein, vous allez voir, les constats sont particulièrement primaires pour le moment, puisque c'est vraiment une science en train d'être développée et en train de vraiment de se faire. Donc il explique qu'il existe une spécialisation fonctionnelle pour le jugement. Le jugement esthétique met en action des zones particulières. Et certaines d'entre elles sont partagées avec le jugement de la perception. Donc on voit comme ça ces zones qu'on arrive à décrire à partir de cette expérience. D'autres expériences permettront peut-être aussi d'écrire encore d'autres zones. Et les systèmes qui sont engagés dans les jugements affectifs concernant les tableaux sont ceux qui le sont aussi dans des appréciations particulièrement fortes et qui ne sont pas juste regarder un tableau du type est-ce qu'on aime ou on déteste quelqu'un, est-ce qu'une personne est belle ou laide, enfin, je suis toujours sur les personnes, ou attraction ou répulsion dans la nature d'un sentiment. Et ce sont donc les mêmes zones qui vont être engagées, et donc ça montre après la sophistication de la nature des jugements, parce que je vous montrais joie et tristesse face à un tableau, on n'a pas forcément les mêmes émotions, au même niveau d'émotions qui vont apparaître. Un autre aspect de ces recherches, le deuxième que je vais vous montrer pour rester dans les temps, est celui d'un autre travail qui a été effectué en Angleterre, à Oxford, en 2011, et puis repris en 2014 dans une publication ici de Parker, donc, qui était le responsable de ce projet, et qui a consisté à demander à des patients de regarder des tableaux de Rembrandt. Certains étaient des vrais Rembrandt, et certains étaient des copies ou des faux. Et donc là, vous avez deux tableaux, alors je ne sais plus lequel est le vrai et quel est le faux, peu importe. Enfin, si vous savez peut-être, je ne sais pas. Et donc, même type de protocole, hein, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans le noir, on va leur dire « c'est un tableau authentique », on leur montre, et puis on regarde la réaction du cerveau. Et puis on va les mettre dans le noir, c'est une copie, on leur montre le tableau, on regarde la réaction du cerveau. Donc ils ont fait ça sur un petit ensemble de sujets pour regarder et puis essayer de dégager justement les parties du cerveau qui allaient être actives quand on est soumis à cette information avant de regarder l'œuvre, c'est un faux ou c'est un vrai. Donc ça nous ramène à ce problème d'authentique, hein, est-ce que on a plus de plaisir et pourquoi on a plus de plaisir quand on regarde un vrai tableau plutôt que quand on regarde une copie ou quand on regarde une image sur un écran d'ordinateur. Donc ils ont fait ce type de données ensuite pour regarder les différentes zones. Qu'est-ce qui est important dans l'étude? Qu'est-ce qu'ils concluent surtout? C'est qu'au niveau de la perception, que ce soit un vrai ou un faux, on active les mêmes parties du cerveau. Les parties activées de la perception sont bien entendu les mêmes. Mais ils se rendent compte que les parties activées quand on dit que ce tableau est véridique, ce sont les zones du plaisir du cerveau. Donc la partie du cerveau hédonique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne s'active pas du tout si on dit que c'est une copie. et si c'est une copie, c'est d'autres parties du cerveau qui s'activent chez ces patients, qui sont plus liées à des réflexions, à des tentatives d'interprétation. Autrement dit, et c'est ce qu'ont dit les patients à la fin de ces observations, pourquoi il me dit que c'est un faux ? Parce que est-il si différent d'avant ? On n'a pas le plaisir d'abord, mais on cherche à comprendre pourquoi le tableau, alors le vrai ou le faux, est différent de l'autre. Donc ils ont fait ça sur un large ensemble de tableaux, ils ont fait ça aussi dans un but un peu polémique, sachant que chez Rembrandt, souvent des tableaux sont attribués et désattribués, il n'y a pas toujours un consensus général entre tous les experts, et notamment ils ont montré des tableaux attribués à Rembrandt il y a 20 ans, les gens en disant que c'était un faux, ben, réagissaient comme un faux, bien entendu. Donc vous voyez ici, je suis juste dans une introduction de ce problème de la neuroesthétique et des enjeux de cette imagerie cérébrale, parce que ce sont des choses en pleine évolution en ce moment et qui prennent de plus en plus d'importance dans le domaine de la compréhension du plaisir esthétique que l'on peut avoir face à une œuvre. Et je pense qu'il y aura beaucoup de recherches passionnantes dans les prochaines années dans ce domaine. Donc pour conclure, je vais revenir quand même sur le fait qu'on regarde les tableaux souvent de manière biaisée. Donc je vous ai montré les pré-raphaélites qui avaient des belles couleurs, en tout cas qu'on peut considérer belles, qui se conserve particulièrement bien. Ici, je reviens sur Van Gogh et sur notre perception d'un tel tableau. Donc, Van Gogh, c'est un tableau sur les roses, donc, qui est à Washington, et en fait, les fleurs se sont totalement décolorées. C'est intéressant parce qu'en fait, si les fleurs avaient été roses, on était en présence des deux couleurs complémentaires, verte et rose, ici, et qui était quelque chose qui crée un contraste que Van Gogh a écrit dans ses lettres à aimant tout particulièrement. Donc, il avait aussi conscience de ce jeu des contrastes de couleurs et des couleurs complémentaires, et ici, bien entendu, on ne peut plus le voir, donc je ne vous mets pas la recolorisation de ce tableau, je vous ai déjà montré ça dans un autre cours, et sur l'importance de tout cela. Donc c'est vrai que ce dernier cours, pour moi, était intéressant pour essayer de vous montrer qu'il faudrait maintenant aller au-delà de ce cours sur la chimie analytique et l'histoire de l'art, en intégrant davantage ces notions biologiques et ces notions cognitives dans nos réflexions. Et que l'objectif des recherches dans les années à venir, dans ce domaine interdisciplinaire lié à la création artistique, à mon avis, sera de comprendre bien davantage, bien plus dans le détail, les relations qui existent entre la mise en œuvre de la matière picturale, le geste, le mouvement du pinceau effectué par le peintre, et notre perception de l'œuvre achevée par notre œil et notre cerveau. Et qu'il faut envisager une approche globale qui nous permettra de relier tous ces éléments comme un tout, et d'inventer des nouvelles formes de recherche interdisciplinaire autour de tout cela, et où neurosciences et sciences de la matière peuvent s'associer pour une vision donc plus complète, à la fois la création artistique, je n'ai pas mis, mais de sa conservation et de sa contemplation. Et je pense que c'est vraiment un des enjeux extrêmement importants pour l'avenir. Alors, j'ai terminé par cette image, qui était la première image de ma leçon inaugurale, où je représentais cet atelier de l'artiste à partir d'une gravure, que vous voyez un petit peu dans le fond, au cœur d'une démarche profondément interdisciplinaire. Et donc j'ai cherché dans les 8 cours qui ont suivi cette leçon inaugurale à aborder toute une série d'aspects. Donc si vous étiez là aux 8, vous pouvez essayer de vous souvenir, mais j'ai abordé tous les aspects qui sont présents autour de ce cercle pour essayer de vous montrer justement qu'on peut réussir à développer, à mettre en parallèle, à juxtaposer, faire un contraste peut-être intellectuel qui va influencer une discipline et l'autre dans le but de comprendre la création artistique, dans le but de comprendre les motivations d'un peintre, dans le but de comprendre son atelier, comme je vous l'ai raconté, et le fonctionnement qui peut exister d'un atelier d'artiste et le fonctionnement d'un artiste dans sa société, influencé par les scientifiques, influencé par le pouvoir, influencé par les commanditaires des œuvres d'art, influencé par toute une série d'autres valeurs qui peuvent exister. Donc le but, à mon avis, des recherches dans ce domaine sera vraiment de décloisonner toutes ces disciplines pour offrir toute une série de nouvelles visions que j'ai cherché à vous faire partager durant ces quelques heures de cours. Donc voilà, j'achève maintenant donc cette dernière séance de cours. Donc c'est particulier, je suis très ému. Donc je vous rappelle qu'il y aura quand même 2 autres conférences. Mais donc je vais tout de suite vous présenter, donc avant une petite pause d'une ou deux minutes, comme d'habitude, l'invité pour le séminaire. Et donc j'ai le très grand plaisir de terminer cet enseignement aujourd'hui sur les relations entre la chimie et l'art en vous présentant pour le séminaire Charlotte Ribérol. Donc Charlotte est agrégée d'anglais, ancienne élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud-Lyon. Et elle est depuis 2009 maître de conférences en littérature britannique du 19e siècle à l'université Paris-Sorbonne au sein du laboratoire Voix anglophone, littérature et esthétique. Donc elle a récemment publié un ouvrage intitulé « Étrangeté, passion, couleur, l'hellénisme de Swinburne, Pater et Simmons » dans lequel elle explique le rôle central joué par la polychromie de l'art grec dans l'infléchissement du discours idéologique et esthétique sur l'antique à la fin du 19e siècle. Donc Charlotte Ribérol s'intéresse aussi à la chimie, et plus particulièrement aux réflexions développées par les artistes et les poètes lorsque des chimistes ont inventé de nouvelles couleurs. Et c'est à ce titre que nous tentons ensemble, en ce moment, de montrer qu'il est possible de rapprocher les approches de la littérature et de la chimie dans le domaine de l'art, afin de mieux comprendre les relations entre la matérialité de la création artistique, la représentation des images et la réception de l'art par la société. Donc aujourd'hui, elle va surtout vous présenter ses recherches riches et fascinantes sur les couleurs du passé. Et le titre de sa présentation est « Des couleurs passées, héritage et controverses chromatiques dans la poésie et la peinture victorienne ». Donc on s'arrête juste 2 minutes pour changer de fichier. Merci beaucoup.